Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Bonjour à tous. Je vous propose que nous fassions une très brève lecture dans le livre des psaumes. Alors ça va être très bref, mais ça va nous reporter dans d'autres passages. Le psaume 60, et ça donne un peu le ton de notre réflexion, c'est une prière de David, et il s'exprime de cette manière: « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. » Et la principale pensée, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alors, vous savez, on le chante, hein, ce petit cœur. Hein. Peut-être qu'on pourra se le réserver pour la fin. Hein. Voilà. Alors, donc, donne-nous du secours contre la détresse. Ça, c'est le lot de notre humanité. En constatant que le secours de l'homme, eh bien, il a peut-être sa raison d'être, mais c'est pas l'aboutissement complet et total de ce que nous attendons dans ce qu'il est question de délivrance et de secours. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et vous savez comment on fait les exploits avec Dieu? Par la foi, hein? Par la foi. Alors, voici le premier propos. Et j'aimerais brièvement rappeler trois principes de foi, de la foi victorieuse. Alors, ça va être simple ce matin. Je vais même vous raconter une histoire invraisemblable. Mais invraisemblable, mais vraie. Comprenne qui pourra. Hein. Alors, le premier principe, nous le trouvons, alors ça va nourrir un peu notre méditation, nous le trouvons dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Là aussi, c'est très bref. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et là encore, je voudrais souligner cette parole qui va nous intéresser premier lieu. Dieu a choisi les choses faibles du monde. Eh oui. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin, physiquement, moralement, spirituellement ou psychologiquement, mais quelquefois, eh bien, on n'est pas toujours en forme. Pas vrai? Oh, je ne vais pas vous faire pleurer quand même. Mais quelquefois, on se sent vraiment faible. Il y a des fois, on est en pleine forme, hein. C'est vrai. Mais justement, c'est une recommandation qui nous est donnée. Et peut-être, vous avez passé une mauvaise semaine, bonne ou mauvaise, et vous dites, ce matin, il faut que j'aille encore au culte. Non, j'enlève le mot encore. Mais je me sens pas capable. Je me sens tellement démuni d'énergie, etc. Ben, écoutez, cette parole, elle est pour vous. Vous avez bien fait de venir, hein. Dieu a choisi les choses faibles. C'est vous, précisément. Vous, peut-être, qui geignez ou vous plaignez à juste raison en disant, mais je sens que vraiment, j'ai pas, comme on dit, la tchatche, la pêche. Quel langage, hein, ce matin. Les choses faibles. Alors, si vous vous sentez faible, c'est pour vous. Deuxième proposition, premier principe, donc, cette vérité paradoxale, la force contre la faiblesse, ou la faiblesse qui triomphe de la force. Deuxième propos, 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Où on peut prendre à partir du verset 4, 6, 7. Car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, il a fait briller la lumière sur nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Un peu compliqué, Paul, hein, mais on va décoder quand même, hein. Dieu fait briller la lumière au sein des ténèbres et il nous a remplis de cette lumière dans nos cœurs pour que nous puissions projeter un témoignage dans le monde entier pour tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sont désespérés, infortunés de la vie, parce que cette lumière, c'est la véritable lumière qui jaillit, eh bien, de la promesse de Dieu et de sa présence. Et ensuite, il est dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes des vases de terre. Et on comprend toute la fragilité d'un vase de terre, faïence, porcelaine. Il faut faire attention parce que quand il tombe, il se brise. Ça, c'est clair. Mais nous portons un trésor. Alors, j'irai pas demander aux dames la valeur de leur collier, de... Je ne ferai pas cette démarche. Hein, mais nous portons ce trésor. Parce que nous avons quelque chose qui nous est propre, nous les chrétiens. Nous disposons de quelque chose que les autres n'ont pas. Et ce trésor, c'est un cadeau de Dieu, figurez-vous. On va le voir. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance ne nous revienne pas à nous, nous glorifiant d'être ce que nous sommes, meilleurs que les autres, plus beaux que les autres, plus intelligents que les autres, c'est pas ça. Mais que finalement, dans cette fragilité, ce trésor soit porté, non pas à notre gloire, non pas à la gloire de l'Église, mais à la gloire de Dieu, par la personne de Jésus-Christ. Servir Dieu en pleine conscience de ce que nous sommes et de ce que nous avons la conscience que nous ne sommes rien et que nous ne pouvons rien faire. Jésus le dit, par exemple, dans l'évangile de Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Là, ça, on le comprend. Avec cette association trésor et vase de terre. Normalement, que lorsque quelqu'un est en possession d'un bijou ou fait l'acquisition d'un bijou, d'un collier ou de quelque chose de grande valeur, on lui met un écrin de valeur aussi. Hein. Mais là, c'est le contraire. Un trésor dans quelque chose qui est un emballage tellement commun, tellement fragile, sans intérêt. Si vous allez, peut-être que vous allez y aller, vous allez par exemple chez Cartier à Paris la semaine prochaine pour offrir pour la fête des mères ou pour l'anniversaire de votre femme un beau bijou, vous allez choisir le bijou, vous n'allez pas le reporter dans un sac en plastique. Hein. Ça m'étonnerait. Donc l'association trésor et vase de terre. Troisième proposition, et on va en arriver justement à notre histoire ensuite. Troisième proposition, c'est dans Philippiens, chapitre 2, verset 13. De 13 à 16. Et c'est bien aussi. Chapitre 2, 13 à 16. Et je lis ceci. Car Dieu, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et Paul dit, je pourrais me glorifier de votre foi en Jésus-Christ que je vous ai annoncé. Retenez bien, vous brillez comme des flambeaux dans le monde en portant la parole de vie. Être des lumières, c'est tout un programme. Être en tant que chrétien une lumière dans le monde, comme un flambeau qui éclaire, eh bien, c'est une vocation. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous le savez, ça fait partie du sermon sur la montagne. Et vous avez remarqué, il y a cette association, comme nous l'avons fait précédemment, l'association de flambeau et de porteur de vie. La flamme est une flamme de vie. Et nous sommes, en tant que particulier ou en tant que collectivité dans cette église et dans toutes les églises où il y a la prédication de Jésus-Christ, l'annonce de Jésus, de sa rédemption et de sa résurrection, du salut en Jésus-Christ, nous avons pour vocation première d'être des flambeaux, des lumières. Alors c'est pas seulement de dire et de dire et de dire sans savoir ce que nous disons, à quelquefois créer de la répulsion chez ceux qui nous écoutent, parce que ça devient du mysticisme ou du fanatisme, mais dans une vie intérieure. Quelquefois, nous n'avons pas besoin de paroles, mais la manière dont nous vivons constitue une lumière, une flamme, un flambeau. Et nous portons la parole de vie de cette manière. C'est Paul qui l'écrit. Flambeau, parole de vie. Alors nous avons les trois éléments réunis. La faiblesse, première proposition. Nous avons également les vases, vases de terre, deuxième proposition, et également, eh bien, le flambeau, qui représente naturellement, quand il est allumé, la lumière. Jésus nous le rappelle, vous êtes la lumière du monde. Si cette lumière est montée sur une montagne, tout le monde va la voir. Mais si vous mettez cette lumière dans un boisseau, c'est-à-dire sous couvert, elle va s'étouffer, elle va s'éteindre, et personne ne pourra finalement, eh bien, voir clair. Mais les choses se sont présentées de cette manière. Alors nous allons donner une application, et là, c'est là où, vous savez, quelquefois dans l'Écriture, il y a des choses qui nous semblent folles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Vous l'avez lu tout à l'heure avec moi, hein. Et vous allez voir qu'il y a toute une superposition entre les histoires banales, les histoires abracadabrantes, portez-moi l'expérience, inimaginables, qui sont quelquefois consignées dans la Bible. On se dit, mais pourquoi c'est écrit? Parce que ça semble quelquefois tellement illogique ou tellement en dehors du raisonnement humain. On se dit, mais pourquoi? C'est parce que derrière ces histoires qui nous interpellent et qui nous font poser des questions par leur simplicité, eh bien, on se dit, mais il y a quelque chose d'autre derrière, on s'interroge. C'est que Dieu veut nous communiquer à travers ces simples images, je vous ai parlé d'histoires invraisemblables, à travers cela, nous communiquer des éléments ou des enseignements à caractère moral et spirituel de haute dimension, hein. Et vous allez le voir maintenant à travers l'application. On va ouvrir, si vous le voulez bien. Le livre des juges. Livre des juges, au chapitre 7. Et là, il y a matière à réflexion dans ce que nous avons dit. Entre tous ces éléments que nous avons vus un peu en superposition, mais qui ont leur raison d'être. Juges, chapitre 7, versets 15 à 23. Et vous allez comprendre mon introduction maintenant, très simple. Alors, juge, 7, verset 15. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en trois corps les 300 hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette autour du camp et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu. Et comme on venait de placer les gardes, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée de l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, vers Teresa, jusqu'aux abords d'Abel-Méola près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Ils poursuivirent Madian et le vainquirent, naturellement. Alors, nous avons quelque chose que je voudrais relever dans un tout petit mot, une liaison. Au verset 16, on l'a lu, il est dit « Gédéon leur remit à tous des cruches, des vases, des cruches vides, avec des flambeaux dans les cruches. » On peut s'imaginer ce que ça peut représenter. Ça paraît tellement incompréhensible. aller à la guerre avec des cruches et avec des piles électriques. Hein ? Vous savez qu'on fait des affaires en ce moment, hein ? Les rafales, les sous-marins, etc., etc. C'est de mauvais augure quand même, hein, parce que j'espère qu'on ne s'en servira pas. Mais toujours est-il allé à la guerre avec un accoutrement pareil. Je pense que tous les stratèges militaires et tous ces chefs d'armée, s'ils lisent ce passage, ils doivent dire, dites donc, hein, ça va pas aller loin. Hein. Ben justement, Dieu confond les forts et il confond les sages par la folie. Et c'est peut-être ce que nous pouvons en tirer dans un premier temps. Remarquez, il va leur remettre des flambeaux, il va d'abord remettre des cruches, et il va remettre des flambeaux dans les cruches. J'aimerais donner deux mots, pour ceux qui peut-être découvrent la Bible, des personnages et des forces en présence pour le combat, parce que c'est une guerre, hein. C'est pas autre chose. Gédéon est un homme extraordinaire. Il va devenir un juge en Israël, on va dire peut-être un prince, en quelque sorte, mais par ses hauts faits militaires. Et pourtant, c'est quelqu'un, quand Dieu l'appelle, qui va dire « Non, tu ne m'envoies pas, moi j'ai peur, tu en envoies un autre. » Ça, c'est vraiment l'image de la faiblesse qui va être transcendée par la force de Dieu. Et il va chercher toutes sortes d'excuses, etc. Mais Dieu va lui dire « Gédéon, c'est toi que j'ai choisi. Et je t'ai choisi parce que tu es faible. » Parce que tu ne sais rien, parce que tu ne peux rien, c'est toi que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir d'autres. Hein. Non, il va l'envoyer. Gédéon va prendre un peu d'assurance parce que Dieu va lui montrer que, il est avec lui et il va faire des miracles. Enfin, Dieu va faire des miracles pour Gédéon, pour lui donner du courage. Tu vois, Gédéon, je suis bien avec toi, tu vas être fort parce que c'est moi qui suis le plus fort. Et Gédéon va partir naturellement, dans cette expérience de chef de guerre, de général et... Ça va marcher avec Gédéon, hein. Ça va marcher. Et puis il y a également l'ennemi. Alors l'ennemi, c'est autre chose. L'ennemi du temps des juges à ce moment-là, c'est les Madianites. Hein. C'est une tribu guerrière qui va s'associer avec les Amalécites. Ça vous dit rien, les Amalécites? Alors eux, c'était des terribles. Hein. Ah ouais, c'était des gens qui, étaient vraiment les ennemis héréditaires d'Israël. Oui. Et ils vont se coaliser, ils vont faire là toutes sortes, une armée, dont on va parler d'ici quelques instants, mais très impressionnante en nombre, et puis en force, hein, parce que Israël c'est un petit peuple, hein, et la guerre c'est pas tout à fait son fort, hein, surtout dans le temps des livres des juges, alors que les autres ce sont vraiment des guerriers et des soldats aguerris pour le combat. Donc il va y avoir cette confrontation, les Madianites. Et le texte va nous dire, à un moment donné, je l'ai peut-être pas lu, mais dans le contexte du chapitre 7, il va nous dire que l'armée qui va se lever contre Gédéon, l'armée ennemie d'Israël, est comme, selon le terme, une multitude de sauterelles. Jusqu'au temps que peut porter nos regards, c'est une armée d'invasion, mais immense. On voit des soldats partout. Et Israël va se retrouver donc au cœur de tout cela. Mais il y a... Il va y avoir pardonnez-moi le mot parce que j'en ai peut-être pas trouvé d'autre, il va y avoir un dégraissage dans l'armée d'Israël. Excusez-moi, dégraissage, ça veut dire que on diminue, on réduit, hein. Voilà, hein. Au départ, il va y avoir, si ma mémoire est fidèle, 22 000 hommes que Gédéon va convoquer, qui vont se mettre autour de Gédéon en disant, on va aller battre l'armée, mais 22 000. Voilà. Dieu va dire, le peuple est trop nombreux. Alors imaginez-vous. Que pour Gédéon, il commence à blanchir, il passe par toutes les couleurs en disant « Mais 22 000, c'est pas assez. Et toi, tu me dis qu'il faut encore faire une ponction dans le peuple. Alors Dieu va lui dire « 10 000, ça suffira. » Ça fait quand même la moitié, hein. Plus que la moitié de qui vont devoir rentrer chez eux, hein. Les choses se font comme ça. Alors, pour quelqu'un qui est quand même pas très courageux, comme qui a toujours peur pour Gédéon, il commence à se faire du souci en disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 10 000 hommes pour combattre ?» Là, ils sont peut-être 100 000. Qu'est-ce que l'on peut faire avec ça? Et Dieu va lui dire, encore une fois, et là, ça va être... Imaginez-vous la scène. Il va lui dire « Écoute, Gédéon, j'ai pensé que ça serait bien que tu ailles les combattre avec 300 hommes. Oh » Imaginez-vous ce que ça pouvait être. 300 hommes. Ils étaient 22 000 au départ, et maintenant, ils se retrouvent 300. « Seigneur, tu peux pas me faire ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 300 hommes ?» C'est quand même une curieuse disposition divine qui est expliquée, eh bien, à travers le verset 7. Je vous le lis simplement pour mémoire, hein, chapitre 7, verset 2. L'Éternel dit à Gédéon, dans la sélection, actuellement des soldats, le peuple que tu as avec toi est encore trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. Tu pourrais en tirer gloire contre moi et dire c'est ma main qui m'a délivré. Vous savez, on n'est pas au bout des surprises avec le Seigneur, hein. Et pourtant, Dieu lui avait dit au départ, quand il a appelé Gédéon, va avec la force que tu as. Si moi je suis avec toi, qui sera contre toi? Et ça, c'est une parole que nous pouvons interpréter pour nous-mêmes, parce que quelquefois nous tremblons devant des géants, nous tremblons devant des armées qui sont naturellement dans la lutte, dans le contexte spirituel, et nous disons, mais comment vais-je y arriver? Ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan de toutes sortes de grands questionnements que nous avons dans notre vie. Dieu nous dit, mais tu vas pas, si tu ne réduis pas l'armée, ben je pourrais pas t'aider, parce que peut-être que tu tomberais dans l'orgueil si tu disais, ben c'est moi qui m'en suis sorti tout seul. Alors on voit que les choses sont faites de cette manière. Mais Dieu prévient là. Prétention de l'orgueil chez Madian et chez Israël. Comme quelquefois, Dieu va épuiser nos ressources humaines pour que nous ne tombions pas dans une prétention en disant, bah oui, j'ai le Seigneur, mais quand même, je m'en suis bien débrouillé avec ma tête, avec ceci et cela. Quelquefois, Dieu nous met à plat, hein. Vous aimez pas ça, hein? Ah oui. Quand on voit que nos ressources nous sont enlevées, privées, et on se dit, mais comment va-t-on faire? C'est pas possible. Eh ben justement, Dieu va chercher les faibles pour confondre les forts. Et c'est parfois le chemin par lequel nous passons. Nous sommes passés par là, pour certains d'entre nous. Et quelquefois bien à plat. Hein. Où là, véritablement, il n'y avait plus d'air dans le pneu. Hein. Enfin, je parle pour moi. Et vous faites pas vous pouvez pas prendre la voie rapide. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Alors, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu me mets dans cet état. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as pris ceci. Pourquoi tu m'as pris cela? Parce que je comptais quand même peut-être, en cas de difficulté dans ma vie, peut-être m'en servir. Le Seigneur nous répond en disant, mais tu n'as rien compris, hein? Tu n'as rien compris parce que si je suis avec toi, mais qui sera contre toi? Vous comprenez ça? Non, vous comprenez pas. Vous m'avez pas répondu. Bah, écoutez. Il y a Paul qui nous dit ça aussi. Alors Paul, c'est un géant de la foi, c'est un homme extraordinaire, Paul. Et qui dit, mais quand je suis faible, c'est là où je suis fort. Seigneur, enlève-moi les chardes, enlève-moi le mal qui est en moi. Dieu lui dit, non, tu vas faire avec. Parce que finalement, eh bien, je te permets ceci afin que tu ne t'enorgueillisses pas et que finalement tu dises, eh bien, voilà, c'est moi qui m'en suis tiré tout seul. Ah, ce sont des paroles qui sont difficiles à vivre, mais on les vit en tant que chrétien. Et si vous prétendez avoir un service, si vous prétendez avoir une mission ou une fonction dans l'Église, quelle qu'elle soit matérielle, qu'elle soit morale ou spirituelle, vous allez voir que l'histoire de Gédéon, ça va vous parler. Et c'est comme ça que Dieu fait les choses. Il ne cherche pas des forts, il cherche des faibles. Il ne cherche pas des sages, il cherche des fous. Enfin, fou, vous comprenez ce que ça veut dire. Hein, on n'est pas fou quand même, non? Non, on n'est pas fou. Non, mais faut faire attention à tout ça. Dieu révèle sa volonté à ceux qui le servent de tout leur cœur, dont le cœur est tout entier à lui. Gédéon est un homme qui a peur. Il a des appréhensions, il se dit, non, je peux pas moi, je ne peux pas, c'est pas possible. Mais Dieu nous parle. Et Dieu nous révèle sa volonté, et il nous révèle le plan qu'il va utiliser avec nous. Et ça, ça nous rassure. Parce que c'est quand même l'histoire de Ruth. Partout où tu iras, j'irai. Là où je vivrai, là où tu mourras, je vivrai et je mourrai. Donc c'est quand même chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Bah, bien sûr. Si nous mettons en avant pour vraiment de tout notre cœur, avec la patience et la foi qui nous est nécessaire pour le servir, mais Dieu va pourvoir à tout le reste. Pourquoi le ferait-il pas? Et c'est la leçon que nous tirons. Il révèle son action. Et son action, son plan, il va le révéler, par exemple, toujours dans le chapitre 7 et au verset 9. Là, c'est aussi croustillant quand même. enfin, si vous permettez l'expression, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit. Donc Dieu parle à Gédéon qui a peur. Lève-toi, descends du camp, car j'ai livré entre tes mains, eh bien, tes adversaires. J'ai livré entre tes mains tes adversaires. C'est bien de savoir que déjà le résultat, il est déjà prêt. Faut-il le croire, hein? Alors, si tu crains de descendre, Dieu dit à Gédéon, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu vas pas y aller tout seul. Tu écouteras ce qu'ils diront dans le camp des ennemis, parce qu'il va venir de nuit, il va faire l'espion, hein. Et après cela, tes mains seront fortifiées. C'est formidable, hein. Descends donc au camp. Alors, il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp des ennemis. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient, imaginez-vous, hein, une armée qui était plus nombreuse qu'une, là, les sauterelles, étaient répandues dans la vallée comme une multitude de sauterelles, et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est au bord de la mer, à vous effrayer, hein. Gédéon arriva, et voici. Un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici, un gâteau de pain d'orge roulé, dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente. La tente, c'est l'ensemble de l'armée. Et elle est tombée. Il l'a retrouvée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Son camarade répondit. Il dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël, Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. Dieu nous a livré entre les mains de Gédéon. Ah, voilà une bonne nouvelle. De quoi rassurer ou rassénérer le courage du plus découragé ou le plus démoralisé, naturellement. Vous avez ces expressions dans cette phrase ou dans ce paragraphe que nous avons lu. Dieu dit « je l'ai livré ». Et quand Dieu dit une chose, c'est que ça va se faire. Parce que Dieu ne revient pas en arrière. « Je l'ai livré ». Maintenant, je vais te demander quelque chose, Gédéon, pour te rassurer. Tu vas descendre, tu vas voir, mais tu vas surtout écouter. L'oreille. Tu vas surtout être attentif, tu vas écouter. Et quand tu auras vu, et quand tu auras entendu, eh bien, à ce moment-là, tes mains seront fortifiées. Tu auras envie de servir Dieu et d'aller beaucoup plus loin, parce que tes mains, elles seront tenues. C'est pas ton ami Pura, ton serviteur, qui va te fortifier. C'est un homme. Il ne peut rien, lui. Mais ça nous rappelle cette belle histoire de Moïse, quand il combattait dans un autre temps pour Amalek, où il y avait Hur et Aaron qui tenaient ses mains pendant toute une journée. Vous rendez compte, un vieillard, tenir les mains en l'air pendant 24 heures? Même les plus jeunes auraient baissé les bras. Parce que finalement, la force, c'est Dieu qui la donne. C'est pas nous. Et tant que nous n'aurons pas résolu de remettre nos forces, prétendues nos forces, entre les mains de Dieu, eh ben, ça ne marchera pas. Alors, il va y aller, il va écouter, ses mains vont être fortifiées, et il va recevoir à ce moment-là, par la bouche de ses ennemis, deux hommes, deux soldats qui sont en train de se parler l'un à l'autre. L'un dit, j'ai eu un songe, ceci et cela. Et le second va lui dire, mais moi, j'ai l'explication de ton songe. Comme quelque chose d'invraisemblable. Un gâteau, là, de pain d'orge, c'est rien du tout, mais c'est une boule. Oui, mais ça faisait vraiment une boule de canon, là, à ce moment-là, hein. Ça se répand de plus en plus. Et tout le camp des Madianites et de tous ces acolytes vont être renversés. Et là, l'autre va décoder en disant, mais attention, c'est pas une pensée comme ça, c'est pas une vue, tout ça, c'est pas une belle histoire, simplement une histoire. Mais c'est que derrière, il y a une signification spirituelle. C'est que ça, c'est Gédéon, avec son épée, avec son armée, avec 300 hommes, vous rendez compte? Il va tout raser. Il va tout détruire. L'ennemi est déjà vaincu, hein. Vous le savez, ça? Et pourquoi nos craintes et nos peurs alors que nous sommes chrétiens et que quelquefois nous tremblons devant certaines choses? C'est humain, c'est naturel, ça m'arrive aussi. Mais néanmoins, il faudrait quelquefois se reprendre. Lorsque la terreur ou les frayeurs devant peut-être les perspectives d'un avenir mais qui n'arrivera peut-être jamais parce que c'est dans notre tête aussi. Et de ce moment-là, de nous remettre dans le contexte et de dire, eh bien, Seigneur, c'est toi qui es vainqueur et moi je me mets de ton côté. Ouais. On entend quelquefois des confessions, même chez mes collègues. J'en entendais encore un qui me disait hier soir parce que je l'ai rencontré, qui me disait, mais demain j'ai quelque chose à faire et je tremble devant ce que j'ai à faire et la prédication que je dois amener. Oh, je lui dis, on connaît ça, hein. Mais après, il m'a dit, mais je me suis fortifié dans le Seigneur pour faire ce que j'ai à faire. Pas facile de prêcher, hein. Pas facile, quelquefois, et devant certainement des auditoires qui ne sont pas toujours très simples. Enfin, c'est pas votre cas, hein. Je le dis, parce que je voudrais quand même sortir vivant, quand même, de la salle. L'ennemi est déjà vaincu. Et de quelle manière? À travers une idée saugrenue d'une boule de pain, là, qui va rouler, etc. Ouais. Mais, l'idée est autant plus saugrenue quand maintenant nous allons arriver à la stratégie militaire pour vaincre avec des cruches et avec des flambeaux. Alors on va voir ça. Moi je trouve que les histoires de la Bible sont truculentes. Hein. Et alors on va voir la mise en œuvre de l'opération. Le verset 20 qui nous dit ceci, on va le regarder ensemble, verset 20. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, le camp ennemi, hein, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Non seulement ils n'ont pas seulement pris la fuite, mais ils se sont tués les uns avec les autres. Le camp s'enfuit, alors jusqu'à Bitcheba, etc., enfin, toutes sortes de choses qui montrent que ils ont couru, ils ont laissé leurs chaussures, ils ont fait comme en 73, ou en 67 plutôt, ils ont couru dans le désert. Un fait à retenir, les flambeaux dans les cruches. Les flambeaux dans la cruche. Et à un moment donné, à un signal donné, ils ont brisé les cruches, ça fait deux fois que c'est dit, hein, dans le texte. Et la leçon qu'il faut en tirer, c'est qu'il s'agit de cruches. De cruches, de terre, vases de terre. Et permettez-moi d'ajouter ceci pour notre leçon personnelle. Il y a des vases brisés et des vases fêlés. Et des torches. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi la lumière éclaire-t-elle autour de nous et en nous, par nous? Nous sommes des vases de terre et il y a la lumière. Un vase peut comporter des fêlures, des brisures, des recollements, enfin, tout ce que vous voudrez. Des fêlures diverses. Et plus la lumière y pénètre dans ces vases fêlés ou qui ont été brisés, recollés, eh bien, à ce moment-là, plus la lumière y pénètre davantage et peut en rejaillir. Je vais vous prendre une idée saugrenue encore. Vous connaissez les citrouilles d'Halloween? Vous mettez de la lumière dans une citrouille qui n'a pas été percée? Rien à voir avec le christianisme, Halloween. Hein. Mais vous prenez un vase et que l'idée vous en vienne, vous mettez une lumière dedans et la lumière va passer au travers. Tant que le vase est entier, tant qu'il est compact, tant que vous ne verrez pas grand-chose, hein. Mais à ce moment-là, la lumière va passer. La lumière va rejaillir. Et je crois, mes amis, que nous n'avons pas à avoir honte de nos cassures et de nos blessures de vie. Oui, je dis bien, on est tous des blessés et des cassés, hein, par l'existence. Autrement, on ne serait pas là, parce que la vie aurait été tellement belle que de toute façon, on n'avait pas besoin de Dieu. Oui. Mais je pense que nous avons des cassures, des blessures, des meurtrissures, des failles, toutes sortes de choses, car avec ces blessures, avec celles-ci, eh bien, Dieu va réaliser un plan pour nous et pour les autres. Nous sommes la lumière du monde et nous allons donner la lumière. Tant que la lumière est confinée sous le boisseau, tant que la lumière est renfermée dans le vase de terre ou dans la cruche, on verra pas grand chose, peut-être une petite lumière comme ça. Mais ce qui est important, c'est que cette lumière, elle jaillit. On s'adresse pas vers une lumière vers le ciel. Le Seigneur, il a la lumière, de l'autre côté, il n'en a pas besoin. Mais par contre, le monde à l'horizontale a besoin de voir notre lumière. Et c'est à travers nos cassures et nos blessures qu'il va le faire. Ça fait mal. Quelquefois, on se dit, mais à quoi je sers? Eh bien, mes frères et sœurs, vous savez qu'à partir de ce matin, vous servez à quelque chose. Et que même vos handicaps, même les disgrâces de notre vie, même les fautes que nous avons connues, parce que quelquefois on était un petit peu quand même pataugés, hein, eh bien Dieu va s'en servir. Il n'est pas là venu pour nous juger, il est venu pour nous guérir, et qu'avec ces guérisons, eh bien nous puissions apporter la guérison aux autres. si la vie à chacun, depuis l'enfance et après, eh bien, si la vie nous a maltraités et que nous en portons encore les marques, parce que ça ne s'efface pas comme ça, hein. Jacob, quand il a été blessé, lui, le vase choisi par Dieu, il l'a porté toute sa vie, hein, son problème avec la hanche là. Mais c'est là où il a été le plus productif, c'est là où il a le plus de foi, et c'est là véritablement où il a servi le mieux le Seigneur, à cause de sa blessure. Alors, si nous emportons les marques de nos souffrances, même des cicatrices de nos péchés, de nos fautes, je suis un prédicateur de la grâce, hein, pas celui du jugement, hein, je tiens à le dire au passage. Eh bien, pour autant que même nos cicatrices, eh bien, Dieu ne nous a pas rejetés. Je le dis. Dieu ne nous a pas rejetés. Autant que nous sommes ce matin, Dieu veut que nous soyons, eh bien parmi ces 300 hommes, on est peut-être un peu moins, mais 300 hommes, que nous soyons là au service de Dieu et que nous puissions le servir. Et ne prétendons pas, et ne disons pas, surtout, Seigneur, mais tu connais mon histoire, tu connais mon passé, tu connais ceci et cela, tu sais que je ne suis pas capable. Dieu dit, mais moi si je veux que tu le fasses, eh bien je te donnerai le pouvoir de le faire. Parce que Dieu, quand il équipe ses serviteurs et ses servantes, il nous en donne pas seulement l'ordre, mais il nous équipe et il nous en donne les moyens. Alors on tremble, ah c'est sûr, on tremble. Mais toujours est-il qu'il faut avoir des certitudes dans notre cœur. Il faut avoir des assurances que si Dieu est avec nous, mais qui sera contre nous? Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous dit l'apôtre Jean. Oui, vase de terre, pour porter un trésor, nous l'avons vu, des cruches et des torches. Eh oui. Alors, les vases de terre, les premiers ont été brisés à l'ordre de Gédéon, cassez les cruches, afin que les flambeaux apparaissent dans la nuit et brillent. Parce que c'était la nuit, hein. C'était là dans, en fait, l'obscurité de la bataille. Je vous rappelle ce qui nous est dit dans Philippiens, quand il est dit, portant comme des flambeaux dans le monde, la parole de vie. C'est bien cela, hein. C'est pour ça que quand j'ai fait le choix des versets bibliques, je me suis aligné pour que ça soit quand même à peu près cohérent, hein. En conséquence, les hommes brisés, les chrétiens brisés, parlons des enfants de Dieu brisés, sont souvent les plus à même, écoutez bien, à comprendre, à compatir, à parler, à aider et à prier, et à porter les peines d'autrui. Jésus nous dit qu'il était homme de souffrance et habitué à la souffrance, et on comprend que Dieu l'avait choisi comme le sauveur pour, eh bien, arracher les hommes de toute leur misère inhérente à l'humanité. Homme de souffrance et habitué à la misère. Nous ne sommes pas plus grands que le Maître. Ce que Jésus a été pour nous montrer l'exemple, nous le sommes. Lorsque nous voyons les disciples de l'Église primitive, qu'est-ce qu'ils en ont pris ainsi, hein? Et lorsque nous voyons encore, et on entend parler, parce que jamais on n'a parlé autant de persécution dans le monde, aujourd'hui, par les médias et par même nos organes de presse internes au christianisme, à notre christianisme évangélique, quand on voit qu'on apprend ici ou là qu'il y a des pasteurs qui sont tués, quand on voit qu'il y a des famines qui sont là complètement écartelées, enfin toutes sortes de choses, on se dit, mais Seigneur, mais vous savez que dans ces pays-là qui sont persécutés, il y a des réveils spirituels. Réveil spirituel. Extraordinaire. Dans nos voyages successifs en Roumanie, et après la libération de ce pays par le tyran Ceausescu, on a découvert des églises qui étaient sous le boisseau, parce qu'ils n'avaient pas le choix, mais des églises d'une vie extraordinaire. Extraordinaire. Alors ça fait 25 ans maintenant. Je souhaite qu'il soit resté aussi vaillant et aussi vif, ce qui n'est pas sûr parce que on leur a exporté toutes sortes de choses qui aujourd'hui, peut-être peuvent être, les amènent à un sommeil. Mais faisons attention à tout ça. Jésus, dont je vous parlais tout à l'heure, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et nous avons à remarquer quelque chose, le son des trompettes. Alors c'est quelque chose qui annonce la guerre, le combat, hein. Le signal de la victoire, le signal du combat, signal peut-être de la défaite pour les uns et la victoire pour les autres. L'association du son strident de la trompette, des vases ou des cruches brisées, parce que ça fait quand même du bruit, n'a duré qu'un instant. Hein. C'est très, très fort, hein, tout ça. Ça n'a duré qu'un instant. Mais la flamme, c'est-à-dire le feu des torches, a illuminé longtemps la nuit de la bataille. Parce que là, on les a pas éteints, celles-ci. Mais pour être libérés, la lumière, il fallut que les cruches soient cassées. Et pour nous dire que les épreuves humaines, parce qu'on en a, ne brisent qu'un temps compté. Et ce temps, il est compté par Dieu. Quelquefois, nous trouvons très long de dire, mais Seigneur, je souffre, j'aimerais tellement être en bonne santé pour faire ceci et cela. Combien de prédicateurs ont expérimenté justement cette faiblesse? Et de dire, mais Seigneur, tu vois, tu m'as appelé à ceci, mais je tiens pas debout. Combien de fois j'ai pu prêcher l'évangile, mon épouse est là pour le dire, et assis, parce que je pouvais pas me tenir debout. Et ça, c'était quelque chose. Ben oui, mais c'est comme ça, frères et sœurs, je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, et c'est pas pour me mettre en avant, mais c'est pour dire que si nous nous arrêtons à la moindre petite migraine qui nous arrive, etc., etc., on fera jamais rien. Et j'ai remarqué, quand on est déterminé, qu'on compte sur le Seigneur, même si on a une tâche difficile à faire, et qu'on n'est pas bien, qu'on a plus envie d'aller au lit, parce qu'on est malade, que d'être là, j'ai souvent, et j'ai toujours remarqué, que quand on le fait, on ressort guéri après. C'est une libération. Une libération. Donc les épreuves humaines ne nous brisent qu'un temps seulement, mais la lumière qui en rejaillit à ce moment-là ne s'éteindra pas parce que nous reflétons l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas nous, mais c'est lui. Et nous ne sommes que des agents. Je ne veux pas dire des instruments, parce que ça n'a pas de sens. Instruments, c'est inerte. Mais des agents pensants et intelligents qui nous livrons entre les mains de Dieu. Et à ce moment-là, nous rendons un témoignage qui va porter pour la gloire de Dieu, tout simplement. Mais, une dernière question, mais d'où vient cette force des 300 soldats? Ils étaient 22 000, ils étaient ensuite 10 000, maintenant ils sont 300 devant une armée considérable, mais d'où vient cette force? Eh bien, c'est précisément la force dans leur faiblesse. Parce que quand on regarde le texte, et vous le relirez, une faiblesse qui était liée à la faim, et à la soif. Parce que dans le chapitre 8, il nous est dit que Gédéon a demandé aux habitants même de son pays, donnez-nous du pain, donnez-nous à boire, nous avons combattu, nous avons mené une guerre terrible, mais nous avons faim et soif. Ceux qui, finalement, à quoi la réponse a été, on vous donnera rien du tout. Donc ils ont été obligés de continuer avec la faim et la soif. Et puis, ils étaient aussi, eh bien là, dans une faiblesse numérique. Je l'ai dit, 300. Le secret spirituel de leur victoire se trouve dans ce qui suit. Et nous allons ouvrir un verset dans le chapitre 8, Juges, chapitre 8, versets 4 à 5. Et vous allez voir qu'il y a là tout un sens particulier dans l'encouragement à aller, à faire, à répondre à Dieu. Malgré la faim, malgré la soif, malgré notre petit nombre, malgré notre faiblesse, écoutez bien, Juges, chapitre 8, verset 4. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Succoth, donnez-nous, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués. Je relis. Il passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Poursuivant toujours. Vous n'avez pas, ce matin, envie de donner la démission de membre de l'église du centre évangélique? En disant, je suis fatigué. On a toujours le même pasteur. Il raconte toujours les mêmes histoires. Par-dessus la tête. Non, mais vous pouvez le penser, hein, moi ça me... Mais une chose qui est certaine, c'est qu'ils poursuivaient, bien qu'ils étaient fatigués. Alors, j'espère que je vous fatigue pas, mais enfin bon, c'est encore autre chose. Fatigués, mais poursuivant toujours. Le courage, leur courage s'appuie sur les promesses de Dieu. Quand Dieu dit à Gédéon, au chapitre 7, « je vous sauverai et je vous livrerai Madian entre vos mains. » Il faut toujours se souvenir de ce que Dieu dit. De sa parole, elle doit être au cœur de notre démarche et elle doit être le souffle d'encouragement dans notre vie. L'on peut dire parfois, et on l'entend, je suis sans force. Et peut-être que parmi nous, il y a peut-être des frères et sœurs, vous êtes au bout du rouleau parce que vous êtes fatigués, à cause peut-être de l'âge, ou à cause des soucis que vous avez. Et ça peut arriver. Peut-être la santé qui est déficiente et autre chose. Je suis sans force. Je me sens plus finalement, eh bien, comme on dit, d'attaque, hein. Ouais. C'est un cri qui exprime notre petitesse et notre insuffisance. Parce qu'il y a des choses que nous aimerions que nous en soyons débarrassés parce que ça nous prend la tête, ça nous prend notre cœur et toutes sortes de choses et notre corps. Moi, je pense à tous les pasteurs. Je pense aux missionnaires qui vont dans des terrains qui sont pas toujours évidents, hein. Je pense également à l'évangéliste. Je pense à tous ceux, dit dans les églises et hors des églises et partout dans le monde, font une œuvre, l'œuvre de Dieu. Et c'est comme un océan. On se dit, mais comment va-t-on pouvoir faire tout ça? C'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Eh oui. Quelquefois, nous avons le sentiment dans nos petites églises de dire, mais Seigneur, nous te servons depuis combien d'années? Pour certains, ça fait des décennies. Et pourtant, notre église n'a pas grandi. Et pourtant, c'est ceci et puis c'est cela. Un océan. Il reste tellement de choses à faire. Et quelquefois, nous nous sentons sans force. Eh bien, c'est peut-être là où il faut comprendre que les 300 soldats de Gédéon, ils étaient fatigués, mais ils poursuivaient toujours. Ils poursuivaient toujours. Nous avons l'exemple de Jésus, parce que c'est lui notre modèle, hein, il restera. Nous le voyons un jour courbé sous, enfin, toujours plutôt, courbé sous la férule de la loi. Cette loi, ce légalisme qui quelque part nous fait tant de mal, nous chrétiens, dans la grâce. Parce qu'on est tiraillé des deux côtés. Voilà, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et puis Dieu nous dit, mais je t'ai pardonné. Si tu fais maintenant, tu ne le fais plus par obligation, mais tu le fais par amour pour moi. C'est tellement plus facile. Hein. Jésus, lui, a porté les affres de la loi. Nous le voyons un beau jour épuisé, assis à la margelle d'un puits, en plein midi. Il nous a dit qu'il avait faim, il avait soif à ce moment-là. C'est l'humanité de Jésus. Nous le voyons un autre jour dormant sur la proue d'une embarcation sur le lac de Tibériade. Parce qu'il était fatigué, exténué, il n'en pouvait plus. Nous le voyons dans ces moments cruciaux de la passion, ployant sous le poids de la croix, obligeant les Romains à aller chercher Simon de Cyrène pour porter la croix, parce que c'était trop lourd, à bout de force. Nous le voyons dans les derniers moments de sa vie, crier, soupirer, nous pourrions dire, exprimer le cri du condamné à mort. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour faire le reste du chemin. Le reste du chemin, il n'était pas long. C'était mourir. Père, pourquoi? Et nous retrouvons dans l'évangile, alors que nous voyons Jésus dans sa puissance, dans sa capacité de faire des miracles, des choses extraordinaires, nous le voyons accablé. Nous le voyons sans force. Nous le voyons harassé et dire encore au monde entier, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est pas le message que nous avons à transmettre aux gens? Que nous nous sentions bien ou que nous nous sentions mal. C'est ça. Ouais. Celui dont la prédiction a dit, et l'a présenté de cette manière, homme dont on ne détourne les regards parce qu'il n'avait rien finalement de beau, et il n'avait rien finalement d'enthousiasmant pour devenir le leader du monde entier, de l'Église. Pourtant, c'est cette infériorité de la chair, de notre nature, qui a remporté la victoire sur le mal. C'est parce que Jésus s'est laissé emmener à la croix qu'à ce moment-là, il a pris la victoire. Il nous le dit. Il nous dit que nous sommes vainqueurs avec lui. Hein. Bien que fatigués, mais poursuivant toujours Jésus. Bien que fatigués. Mais de cette fatigue, n'allons pas en tirer un argument pour nous en disant, écoutez, moi, je suis votre conducteur spirituel. Je vous demande, oh, une petite chose, priez pour moi 24 heures sur 24 sans vous arrêter. Non, attention, hein, parce que là, on peut aussi passer dans le mysticisme et dans toutes sortes de choses. Donc, sans pour en faire autant, un mérite, et même en être humilié comme une tare. C'est-à-dire, moi, voilà, je suis malade, mais c'est bien parce que Dieu se sert de moi. Alors, soyons un peu modestes. Hein. Et puis, d'un autre côté, en disant, mais moi, je vis quelque chose, une infirmité, mais c'est une tare. Alors je fais rien. Il y a l'équilibre, nos faiblesses. Prouve l'action du Saint-Esprit à travers nous et c'est le témoignage que lorsque nous sommes faibles, c'est là où nous sommes plus forts. Je joue sur que nous sommes forts. Mes frères et sœurs, la restriction, la diminution, l'enlèvement même parfois de nos capacités naturelles se change en courage. Et de ce courage, Dieu nous dit comme à Gédéon, vaillant héros. C'est la foi des héros. Et il n'y a qu'une chose qui va compter, qui va déterminer, qui va changer notre vie, c'est notre foi en Dieu, c'est pas autre chose. C'est pas nos pleurs, c'est pas nos gémissements, ce sont pas nos gesticulations ou nos inventions, c'est notre foi dans la victoire de Jésus-Christ. Conclusion. Nous avons apporté l'évangile dans des vases de terre. Quand nous serons de l'autre côté, nous serons comme les anges. Vous vous rendez compte? Hein? Un battement d'ailes. Ange blanc. Enfin, vous verrez comment on sera. Hein? Je ne sais pas si on aura des plumes aussi. Hein? Non, des anges. Êtres célestes et spirituels. Nous portons l'évangile dans des vases de terre. Parfois, souvent, ces vases y sont brisés par l'usage de nos épuisements ou l'usure de nos, de notre vie, de nos capacité nerveuse. Vous savez, on est dans un monde aujourd'hui, les gens étaient harassés dans le temps physiquement, mais aujourd'hui, on est mort par tout le stress et l'angoisse et toutes sortes de choses. Ça, ce sont, en quelque sorte, eh bien, nos ressources nerveuses. Ah oui, c'est vrai qu'on a du week-end, c'est vrai, enfin, vous en avez, vous avez toutes sortes de choses, on a des vacances, etc. Les anciens, ils avaient rien du tout. Ils étaient fatigués physiquement. Aujourd'hui, on est fatigué moralement. Psychologiquement, il y a le stress et toutes sortes de choses. Alors ça peut amener finalement, eh bien, à tout cela. La fragilité de nos tempéraments, il y a des forts et il y a des faibles, sur le plan de la constitution finalement naturelle. Et puis, quelquefois, ce sont les conséquences d'une maladie, d'une infirmité, et qui trahit tout simplement que nos forces sont abîmées, tout simplement. Mais si nous acceptons cet état d'infériorité physique ou morale, parfois même spirituel, eh bien, nous allons permettre à ce moment-là à l'Esprit de Dieu en nous de diffuser quelques lumières, quelques clartés, et c'est vraiment le rôle du corps de Christ, je dirais même quelques fruits spirituels. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la foi, la tempérance. Toutes sortes de choses comme ça, nous allons pouvoir les diffuser, tout simplement. Et ça va être diffusé parce que nos vases ont été brisés, tout simplement. Fatigués, mais poursuivants, toujours. Alors faisons confiance à celui qui a dit un jour, « Invoque-moi et je te répondrai. » Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Nous allons nous recueillir quelques instants. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu n'as pas choisi les choses fortes, ni les choses sages, mais tu as choisi les choses qui paraissent folles, comme nous l'avons vu ce matin. C'est fou cette histoire. Et tu as choisi les choses, en effet, Père éternel, qui sont faibles. Mais à travers la faiblesse, tu en as fait une force. Et tu nous as donné l'équipement qui était nécessaire. C'est notre foi en Jésus-Christ. Notre foi dans Christ, qui lui a connu les accablements, les épuisements, la fatigue. Toute cette humanité qu'il a dû porter comme nous la portons nous-mêmes. Mais qui, à travers tout cela, tellement fatigué, eh bien, a poursuivi toujours. Seigneur, tu nous bénis, et moi je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont fatigués ce matin, qui se posent des questions en disant « je continue ou je m'arrête ». Mais Seigneur, tu vas les visiter, et tu vas leur donner la force de ton esprit, parce que s'il n'y a pas d'esprit, eh bien, à ce moment-là, il n'y a plus rien du tout. Ça vient d'en haut, Seigneur. Et en haut, il y a notre Dieu qui nous regarde, qui nous aime, qui nous fortifie, qui ne nous juge pas, mais qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Pour sur terre, être véritablement la lumière du monde. Merci Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.